Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton sacrifice expiatoire sur la croix qui nous fait passer de la mort à la vie. Chose que nous étions incapables de faire, et cette incapacité nous menait vers la condamnation éternelle. Toi, tu l'as fait à notre place, en donnant ta vie à notre place, et en nous offrant ce sacrifice pour passer de la mort à la vie, pour que l'éternité commence ici-bas et continue. Je te remercie pour ce message que nous allons vivre tout au long de cette semaine jusqu'à ta résurrection, le dimanche de Pâques, et que cette réalité spirituelle nous accompagne à titre individuel, à titre collectif. Et je remets entre tes mains aussi, devant ta face, devant ton trône de la grâce, le message de ce matin. Que tu puisses préparer les cœurs pour le recevoir, et que le Seigneur chacun puisse prendre la part que tu as préparée pour lui. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme nous allons continuer notre étude, notre voyage à travers l'Évangile selon Marc, et nous sommes arrivés à Marc chapitre 10, et aujourd'hui c'est les versets 28 à 45, et qui font écho, n'est pas choisi, et qui font écho à cette semaine qui nous prépare, justement pour célébrer Pâques, parce qu'il est question de mort et de résurrection, il est question de croix au centre même de ce message. Alors je vais demander à Ryan de nous lire ce passage dans Marc 10, versets 28 à 45. Donc 28 à 45.
Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent en centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. »
Voilà notre passage d'aujourd'hui. Donc nous avançons dans l'Évangile selon Marc. Comme je dis, l'Évangile de Marc s'adresse à tout le monde, parce qu'il est simple, court, et ne s'adresse pas à des gens qui ont fait des études théologiques, quoi que ce soit, mais c'est un message très simple. Celui de la mort, de la résurrection, du sacrifice, et nous explique tout simplement la vie chrétienne simple de chacun de nous. Je dis toujours que la vie chrétienne est une vie chrétienne individuelle qui se nourrit d'une vie communautaire collective et inversement. La communauté se nourrit de la vie chrétienne de chacun, de chacune, et l'inverse aussi. Chacun de nous nourrissons de la vie communautaire, c'est très important. Et en même temps, la vie chrétienne, elle est transversale et verticale à la fois. Nous vivons ce que Dieu nous donne à travers notre vie relationnelle. Tout est lié. Notre vie communautaire tire, je dirais, sa source de cette relation verticale avec notre Dieu et inversement parce que le cœur de notre Dieu se réjouit quand il y a une vie communautaire. Comme vous voyez, ce message, le fil conducteur est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce fil conducteur que je vais évoquer avec vous sans aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire si je prends verset par verset. Mes frères et sœurs, s'il y a une semaine à mettre à part dans l'année, c'est celle-là qui se présente devant nous. Dans la foi chrétienne, chez les chrétiens, il n'y a que cette fête de Pâques qui se célèbre. Il n'y en a pas d'autre. Si nous mettons autant de ferveur pour célébrer Noël, vous saurez que la fête de Noël n'existe pas dans la Bible. Par contre, célébrer Pâques, c'est quelque chose de solennel. Quelque chose qui est écrit dans la vie de chaque chrétien, de chaque foyer chrétien. Nous devons célébrer Pâques à titre individuel et à titre collectif. C'est pourquoi cette semaine qui se présente devant nous, c'est une semaine sainte. Une semaine qui nous rappelle encore cette œuvre du Seigneur qui a commencé par l'entrée à Jérusalem et qui ira jusqu'à atteindre son apogée quand il sera crucifié à Golgotha pour nous. Et si vous posez des questions, frères et sœurs, dans l'année, à quel moment, si vous avez envie de jeûner, je vous donne le conseil fraternel, c'est maintenant. Si vous cherchez un moment où le jeûne a de l'importance, soit une obligation, mais si votre cœur vous en parle, et si vous décidez, tiens, à quel moment je dois jeûner, eh bien c'est cette semaine de Pâques qui nous le permet, en sachant. Il y a un jour où il ne faut pas jeûner. Il est interdit de jeûner. Pourquoi je dis ? Ça c'est mon mot à moi. Je l'avance, je dis, il est interdit de jeûner ce jour-là. C'est le jour de la résurrection. Dimanche, il n'y a pas de jeûne. Dimanche, on mangera ensemble. On chantera ensemble. Et vous le savez, dimanche prochain, on va se retrouver ici, autour d'un repas, avec notre frère Jean-Marie qui sera là, qui amènera le message. Donc que chacun fasse selon les dispositions de son cœur. Dans l'évangile, selon Marc, au chapitre 10, nous assistons à un moment charnière dans l'enseignement de Jésus. Après le départ du jeune homme riche, incapable de renoncer à ses biens, Pierre prend la parole au nom des disciples. « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Cette parole n'est pas seulement une affirmation, elle est aussi une interrogation intérieure, presque une inquiétude. « Seigneur, ça vaut vraiment la peine de te quitter pour te suivre ?» En fait, quelque part, ils sont en train de dire cela. Et chacun de nous, on doit se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de quitter beaucoup de choses pour suivre le Seigneur ? C'est une question que tout croyant rencontre aujourd'hui. C'est la question que nous devons nous poser tous les jours. Car suivre Jésus implique un choix. Oui, un choix. Des décisions à prendre, une rupture, un renoncement, un prix à payer. Il ne s'agit pas d'ajouter Dieu à sa vie comme si c'était une option. Non, pas du tout. Mais de réorienter toute sa vie vers Dieu. Alors Jésus répond, mais sa réponse ne sera pas simplement consolante. Elle sera profondément vraie et parlante. Elle nous conduira au cœur du mystère. Et quel mystère ? Le mystère de la croix. Je ne parle pas d'un symbole qu'on trouve sur les murs, je parle de la réalité spirituelle qui se cache derrière la croix. Jésus répond à Pierre, « Il n'est personne qui, ayant quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi et de la bonne nouvelle, ne reçoive au centuple. Attention, là j'attire votre attention des fois les interprétations. Il n'est pas question de décider soi-même de quitter sa famille, de quitter ses frères et sœurs, etc. Non, Jésus nous parle de conséquences. Si vous êtes amené par la force des choses à être rejeté par vos familles, par vos pères, etc., c'est de cela qu'il s'agit. Ne faisons pas de cette interprétation une décision héroïque de dire maintenant je suis chrétien et je vais quitter tout le monde. Non, c'est quand on est amené par la force des choses à quitter notre milieu. C'est en quelque sorte une persécution dont s'agit. Ces paroles révèlent une vérité fondamentale. Le royaume de Dieu fonctionne selon une logique inversée. Souvent, quand on suit le Seigneur, on est amené à accepter le rejet. Sans lutte, mais dans la paix et en donnant l'amour. Dans le monde, nous cherchons à conserver, à accumuler, à sécuriser notre existence, à convaincre les autres pour continuer à nous accepter, jusqu'à nous adapter à ce qu'ils veulent, juste pour être acceptés. Nous pensons que posséder nous protège en s'assurant de la confiance des autres. Acceptez-moi par ma foi, je suis prêt à adapter ma foi à vos attentes, juste pour m'accepter. Je suis prêt à mettre de côté la croix et m'adapter à ce que vous avez envie. Mais dites, laissez-moi dire quand même, je suis chrétien et enlevez ce qui vous gêne. C'est pour ça, je dis toujours, l'écuménisme, des fois, quand on m'amène à toutes les religions qui se réunissent, et on dit, mettons de côté nos différences et gardons ce qui nous convient. Faire cela, c'est renier le Seigneur. Je ne peux pas mettre de côté le sacrifice du Seigneur à la croix. Je mets de côté la croix, qu'est-ce qui reste? Eh bien, plus rien. Pour intégrer, recevoir le royaume de Dieu, il est question de prix à payer. Et quand on intègre, quand on reçoit le Seigneur dans notre cœur comme royaume de Dieu, nous avons tout et nous pouvons donner. Celui qui donne, reçoit. Celui qui perd, trouve. Celui qui abandonne est rempli et comblé. Ce paradoxe n'est pas une simple idée spirituelle, il est une expérience concrète pour celui qui marche avec Christ. En étant amené à quitter certaines sécurités humaines, le croyant découvre une richesse nouvelle. La présence de Dieu, la communion fraternelle, la paix intérieure, la victoire déjà accomplie, tout simplement la vie. Mais Jésus ajoute une précision essentielle. Il a évoqué avec des persécutions. Cela signifie que le chemin du disciple n'est pas un chemin de facilité. Il est marqué par des résistances, des incompréhensions, des rejets, parfois même des souffrances. Car quitter le monde, c'est entrer dans un combat spirituel quotidien. Mon frère, ma sœur, si tu vis un combat spirituel tous les jours, tu es sur le chemin. Si ce n'est pas le cas, posons-nous des questions. Le texte nous dit ensuite que Jésus monte à Jérusalem et qu'il marche devant ses disciples. Il ne les pousse pas. Non, il les précède. Ils le suivent. Est-ce que nous suivons le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il annonce est sans ambiguïté? Le Fils de l'homme sera livré. On le condamnera à mort. On se moquera de lui. On le fera mourir. Alors mes frères et sœurs, si on se moque de vous, si on vous frappe, si on vous insulte, ne répondez pas. Mettez tout sur le dos du Seigneur parce que lui, il a tout payé avant. Et c'est même un privilège d'être insulté, rejeté, frappé pour notre foi. Jésus révèle ici le cœur de sa mission, la croix. Il ne cache pas la réalité, il ne promet pas une vie facile, il montre que le chemin qu'il emprunte est un chemin de souffrance, d'épreuve et de don total de soi. Suivre Jésus, ce n'est pas simplement adhérer à un enseignement moral, c'est entrer dans une trajectoire, celle du Christ lui-même. Et cette trajectoire passe obligatoirement par la croix. La croix n'est pas un accident dans la vie chrétienne. Elle en est le centre. Elle est ce lieu où l'homme apprend à mourir à lui-même d'une manière quotidienne et progressive pour vivre en Dieu. Pourquoi ce chemin est-il difficile? Pourquoi l'homme résiste-t-il à suivre Jésus jusqu'au bout? Et je le reconnais devant vous, ce n'est pas facile dans ma vie, dans mon cheminement avec le Seigneur. C'est très difficile. Cette chair, mais je sais qu'elle est mauvaise, mais qu'elle est terriblement forte, au point qu'elle cherche toutes les subtilités pour nous éloigner du Seigneur, ou du moins pour faire un mélange. Ce n'est pas facile, et je le sais dans ma propre vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que il y a une réalité malheureuse qui nous accompagne, c'est le péché. Le péché n'est pas seulement une faute morale, le péché est une rupture. Et ce péché est attaché à ma nature, à ma chair. Tant que je suis sur terre, il y aura une lutte. C'est pourquoi nous devons regarder le regard sur Jésus. Le péché n'est pas seulement une faute morale, que je viens de le dire, il est une rupture, rupture avec Dieu, rupture avec les autres, rupture avec soi-même. Le péché, c'est par l'homme de son Créateur. Le péché coupe la communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Le péché attriste l'Esprit Saint. Le péché est attaché à ma nature. Le péché attache l'homme à lui-même. Il l'emprisonne, il le rend esclave. Il lui faut croire que la liberté, et c'est donc faire ce que je veux. Alors que tout être humain est esclave de lui-même, parce qu'il est dépendant du péché. Le péché nourrit l'orgueil. Le péché nourrit l'égoïsme. Le péché nourrit la peur de perdre. Le péché nous fait en sorte que nous voulons tout posséder. Il pousse à conserver plutôt qu'à donner, à dominer plutôt qu'à servir. C'est pourquoi Jésus appelle à la repentance que la chair n'aime pas. Notre nature ne veut pas de repentance. Elle veut faire comme étant un Dieu. Oui, le Seigneur appelle à la repentance. La repentance n'est pas seulement un regret, des remords. Elle est un retournement du cœur, un changement de direction, un abandon de l'homme ancien, et Dieu nous donne la faculté de décider et de choisir. Sans repentance, il n'y a pas de vraie marche avec Dieu. Sans vérité intérieure, il n'y a pas de transformation. À ce moment du récit, un contraste frappant apparaît. Vouloir la gloire sans la croix. Deux parmi les disciples cherchaient la gloire, avant même d'arriver à la croix. Alors que Jésus parle de sa souffrance et de sa mort, Jacques et Jean viennent lui faire une demande étonnante. Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Ils pensent à la gloire, Jésus parle de la croix. Ils cherchent une place, Jésus annonce le sacrifice. Ils pensent à la gloire sans oublier qu'il faut d'abord passer par la croix. Ce décalage révèle une tentation profonde du cœur humain, le mien, entre autres. Vouloir les bénéfices du royaume sans accepter le chemin. N'est-ce pas le message qu'on véhicule chez les chrétiens dès le début de leur conversion? Sans processus de mort dans leur vie, on leur parle déjà des fruits de l'esprit. Jésus leur répond en vérité. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis il pose une question essentielle. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Mes frères et sœurs, dans notre cheminement, est-ce qu'on accepte de boire la coupe que Jésus a bu dans toute notre vie quotidienne? Il est question de porter sa croix tous les jours pour le suivre. Je sais que c'est un message que la nature humaine n'accepte pas. Il est normal. Et je ne défends pas le contraire. Notre nature n'aime pas ce message. Parce que ce message est en train de dire à notre nature, tu dois mourir. Mais comment voulez-vous que ma nature dise, oui, je veux mourir? Non. Mais spirituellement, je sais que le Seigneur l'a fait. Et par la foi, la mort devient active en nous. Et c'est cela, la marche dans l'esprit. La coupe, c'est la souffrance, l'abandon, le don de soi. C'est la croix. Autrement dit, peut-on partager la gloire de Christ sans partager la croix? La réponse est simple, c'est non. Face à cette incompréhension, Jésus rassemble ses disciples et leur enseigne une vérité fondamentale qui s'adresse à nous. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Dans le monde, la grandeur s'exprime par le pouvoir, la domination, la reconnaissance. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous étiez étonnés du faste, de l'accueil qu'a eu hier le pape à Monaco. Est-ce que vous avez vu ça? C'est intéressant, je suis dit. Quelle vedette! Tout est fait pour Laura, son vœu. En mettant, en donnant de la valeur à ceux qui sont quelqu'un. Mettre derrière lui des gens, des grands de ce monde, quand il a donné son message. Les gens priaient sur la volée. Il fallait s'inscrire. Et j'imagine que des gens sont, qui ont plus de pouvoir pour y assister. J'ai même vu un jeune étudiant monégasque qui est venu d'Écosse pour accueillir le pape, alors que des gens de alentours, ils voulaient venir tout simplement, on leur a dit non. Vous n'êtes pas des citoyens monégasques. Vous voyez, le message du Seigneur est complètement contradictoire avec ce que le monde peut nous proposer. Jésus donne l'exemple parfait. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Cette phrase résume tout l'évangile. Jésus ne se contente pas d'enseigner le service. Il le vit jusqu'au bout, jusqu'au don total de sa propre vie. C'est ça le service. Chers frères et sœurs, la croix est le centre de la foi chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Il n'y a pas de message sans croix. Il n'y a pas de vie sans mort. Les deux vont ensemble. C'est à la croix que le péché est vaincu, la relation avec Dieu restaurée, le cœur de l'homme est transformé. La croix n'est pas seulement un symbole, même si on en a un symbole ici, parce que c'est une réalité spirituelle. Elle est une réalité spirituelle vivante. Elle agit encore aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ceux qui s'approchent de Christ simplement. C'est à la croix que l'homme comprend la gravité du péché qui le maintient dans une mort spirituelle, la profondeur de l'amour de Dieu, la grâce accordée à chacun de nous et la nécessité de mourir à nous-mêmes d'une manière progressive, chacun à sa mesure, chacun selon le temps que Dieu lui accorde. Mais c'est aussi à la croix que commence la sanctification, c'est-à-dire devenir saint d'une manière progressive, changer de vie. Car Dieu ne veut pas seulement pardonner, il veut transformer. C'est très important. Pardon et transformation, ça va ensemble. Le pardon engendre la transformation, le désir d'être transformé. Lorsque le cœur est touché par la croix, par le message spirituel de la croix, qui s'adresse à notre cœur, et c'est l'Esprit Saint qui donne ce message à notre esprit, de cette réalité qui se cache derrière la croix, la vie commence à changer. Et souvent sans nous rendre compte, car Dieu, comme je dis, ne veut pas seulement accorder un pardon sans qu'il y ait des fruits qui l'accompagnent. La foi devient concrète, elle se manifeste dans notre vie, par la piété, dans notre vie de piété qui sera marquée par quoi? Par l'humilité, la modestie, l'honnêteté, le sérieux, la transparence, la simplicité. Ce sont des fruits que tout chrétien doit avoir dans sa vie. Il n'a même pas besoin à se forcer, c'est les fruits de l'esprit. Le croyant n'a plus besoin de paraître, on n'a plus besoin de nous forcer pour montrer que nous sommes chrétiens. Le chrétien cherche à être tout simplement vrai et très transparent devant Dieu. Il apprend à vivre dans la lumière, à reconnaître ses faiblesses, à dépendre de la grâce divine. La sanctification est un processus. La sanctification est un chemin. Elle n'est pas instantanée. Elle est progressive, chacun selon le temps que Dieu lui permet. Mais elle est réelle, jour après jour. Le cœur est purifié, notre cœur est purifié. Nos pensées sont renouvelées. Et nos attitudes changent au point de devenir un témoignage dans notre entourage. Chers frères et sœurs, suivre Jésus a un prix. Et c'est le message de toute cette semaine de Pâques. Mais ce prix ouvre une vie nouvelle, une vie réconciliée avec Dieu, une vie libérée du péché, une vie transformée par l'Esprit. Le chemin n'est pas large, vous le savez. Il est vraiment étroit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mes frères et sœurs, ayant ce souci permanent de faire partie des appelés élus. Ce chemin passe par la croix, mais au bout de ce chemin, il y a la vie véritable et nous allons la célébrer dimanche prochain, le dimanche de la résurrection. Alors aujourd'hui, la question demeure. Sommes-nous prêts à suivre Jésus non seulement dans ses promesses, mais aussi dans son chemin, mais aussi sur son chemin, dans son chemin, c'est-à-dire en abandonnant ce qu'il demande qu'on abandonne? Car c'est dans ce chemin, et dans ce chemin seulement, que l'homme trouve sa véritable liberté. Ne ratons pas la cible, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et nous donne un cœur repentant, sincère, humble, modeste et disponible pour marcher avec lui. Amen.